RFI, 8h à Paris, minuit à Phoenix.
RFI Matin.
Le journal de Jeanne Bartoli et l'Amérique, Jeanne, à l'heure du choix.
Entre une femme noire, démocrate, vice-présidente sortante Kamala Harris et le milliardaire et ancien président Donald Trump, 78 ans, qui en est à sa troisième présidentielle. Une présidentielle et deux personnalités donc de programme aux antipodes. Une élection qui inquiète depuis le traumatisme des émeutes du Capitole. On verra qu'elle va se jouer dans les états clés et notamment en Pennsylvanie. Ultime meeting ces dernières heures pour les deux candidats. Dans ce journal aussi, nous serons en Espagne où les secours sont toujours à l'œuvre près d'une semaine après les inondations monstres qui ont ravagé la région de Valence. Des centaines de sextapes qui ont fuité et qui font scandale en Guinée équatoriale. On vous raconte l'affaire et puis on reviendra sur l'attribution du prix Goncourt à Kamel Daoud pour son roman sur la décennie noire en Algérie.
C'est un village perdu dans les forêts du New Hampshire à la frontière nord-est des États-Unis avec le Canada.
Et c'est là qu'a été donné tout à l'heure le coup d'envoi de la présidentielle américaine. Depuis 1960, la tradition veut que ce village de 6 électeurs lance officiellement la journée de vote. Les lois électorales du New Hampshire permettent en effet aux villes de moins de 100 habitants d'ouvrir leur bureau de vote dès minuit. Le scrutin n'a pris que quelques minutes. Le dépouillement aussi. 3 voix pour Kamala Harris, 3 pour Donald Trump. Voilà qui donne le ton de cette présidentielle, peut-être l'une des plus disputées de l'histoire. Le reste des bureaux de vote de la côte Est ouvre dans 4 ou 5 heures. Un peu plus tard, encore en Arizona, dans l'Ouest américain. L'État avait été remporté de peu par Joe Biden en 2020, mais les résultats contestés par le camp Trump et le camp démocrate, de nouveau, craint des tensions et des débordements. Reportage d'Abla Jounaïdi dans la région de Phoenix.
Dernière bouffée d'air frais dans les rangs démocrates avant le grand saut du 5 novembre. Ruben Gallego, le vétéran d'Irak qui rêve de devenir le premier latino d'Arizona assiégé au Sénat américain, savoure ce moment comme il redoute la suite.
On sait que mardi, on sera tous un peu plus anxieux. Hein. Alors voilà ce que je veux vous dire. La chose qui m'anime, c'est de combattre. Je ne sais pas quel résultat on aura, mais il faut se battre. Alors si vous sentez monter l'anxiété mardi, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Battez-vous.
À Phoenix, l'immeuble qui abrite les opérations de dépouillement et de comptage des votes s'est mué en une forteresse. Double barrière de sécurité, caméras de surveillance à l'intérieur et au dehors, des snipers en cas de nécessité, en prévision du pire des scénarios. Mike Hutchinson, un conseiller chargé d'attirer les investisseurs dans l'East Valley de Phoenix, lui aussi a une hantise.
L'ancien président Donald Trump va annoncer mardi soir qu'il pense avoir gagné. Il va le faire à 10h du soir avant même que les résultats soient connus. C'est ce qu'on a vécu l'autre fois. Des gens sont venus perturber le personnel électoral alors qu'ils font un pur travail civique. Alors qu'ils font juste le bien. Je pense que le comté est bien préparé si des choses étranges arrivent. Ils y ont passé beaucoup de temps, hélas, donc ils s'y sont bien préparés. They spent a lot of time, sadly,
having to prepare for that. Pour l'instant, la campagne n'a été émaillée que d'incidents isolés, mais jamais le négationnisme des résultats, avant même qu'ils ne soient connus, n'a été aussi fort en Arizona. Abla Jounaïdi, Phoenix, RFI.
Cette présidentielle couplée avec plusieurs scrutins pour renouveler la Chambre des représentants, une partie des sénateurs, mais aussi certains gouverneurs et des référendums auront lieu également sur l'avortement.
La campagne, elle se termine. Kamala Harris et Donald Trump ont participé à leur ultime meeting ces dernières heures.
Une dernière prise de parole dans le nord-est des États-Unis et notamment en Pennsylvanie, l'état clé des états clés en quelque sorte avec ses 19 grands électeurs sur les 270 qu'il faudra obtenir pour être élu. David Thompson, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Donald Trump et Kamala Harris qui ont arpenté, David, cet État jusqu'à la toute fin de campagne.
Oui, ces deux candidats que tout oppose étaient en meeting au même moment, à 10 km de distance dans cet état-clé de Pennsylvanie, avec d'un côté Donald Trump et sa vision apocalyptique d'une Amérique en déclin selon lui après 4 années de présidence démocrate. Kamala Harris est un désastre, dit-il, une personne à faible QI, sans talent, elle a détruit l'Amérique, mais grâce à votre vote, demain, je vais tout réparer. Donald Trump qui promet une dernière fois de stopper l'inflation, de stopper l'invasion de migrants, dit-il, sinon le pays pays ne s'en remettra pas. Nous sommes épuisés par toute cette peur, cette division, répond Kamala Harris. La démocrate promet d'incarner une nouvelle génération de leaders. Nous ne reviendrons pas en arrière, dit-elle. Nous croyons en la liberté. Nous nous battons pour notre démocratie. Kamala Harris qui a fait du porte-à-porte elle-même aujourd'hui en Pennsylvanie pour mobiliser les électeurs dans cet état où chaque voix va compter. Avec un parterre de célébrités venues la soutenir pour son dernier meeting de campagne, Oprah Winfrey, Ricky Martin ou encore Lady Gaga.
Alors, les sondages, David, sont toujours aussi serrés. Kamala Harris assure que la dynamique est en sa faveur, mais Donald Trump lui dénonce déjà des fraudes.
Oui, ils essayent déjà de tricher, dit Donald Trump, en reprenant des théories conspirationnistes issues des réseaux sociaux. Il évoque notamment 2600 bulletins de vote frauduleux qui auraient été retrouvés dans le comté de Lancaster en Pennsylvanie. Mais l'information a été démentie par les autorités et le secrétaire d'État Larry Krasner met en garde ceux qui voudraient perturber le scrutin. Nous avons des menottes, des jurys, des juges, dit-il, et des prisons. Quant à la campagne Harris, elle met en garde le camp Trump contre toute tentative de semer le doute sur l'intégrité de l'élection. Les démocrates avertissent aussi que les résultats prendront plusieurs jours, mais ils craignent que Donald Trump n'attende pas ce délai pour proclamer sa victoire.
Et David Thompson, merci, correspondant d'RFI aux États-Unis. Kamala Harris qui a mis en garde tout à l'heure, chaque voix compte, même celle qui lui semblait acquise depuis plusieurs mois. La campagne de Kamala Harris a en effet mis l'accent sur un électorat historique, les hommes afro-américains. En 2020, 9 électeurs sur 10 avaient soutenu Joe Biden, mais des sondages récents indiquent une très légère baisse, très petite, mais assez donc pour inquiéter l'équipe de campagne de Kamala Harris. Reportage Edouard Maille.
Quelques personnes attendent leur tour pour une coupe de cheveux chez ce barbier dans la banlieue d'Atlanta. Malgré les sondages qui montrent une légère baisse du soutien des Africains-Américains pour les démocrates, tous ici soutiennent Kamala Harris comme Hassan.
The United States needs a change.
Les États-Unis ont besoin de changement. Il faut un nouveau locataire pour la Maison-Blanche, quelqu'un qui ne ressemble pas au précédent. Certains pensent qu'une femme ne peut pas faire le travail d'un homme. Mais être président, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de capacité.
But being president isn't a man's job, it's a person that can do the job.
Ici, tout le monde vote démocrate. Si le patron John Douglas a constaté quelques revirements pour Donald Trump, c'est à cause de la désinformation, explique-t-il.
Ceux qui sont désormais convaincus par Trump s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux. Ils n'écoutent pas les médias traditionnels.
Shai s'installe dans le fauteuil du coiffeur. Il s'agace des sondages qui indiquent une baisse du soutien démocrate chez les hommes noirs, car il constate l'inverse.
Historiquement, les hommes noirs ne votent pas différemment des femmes noires. Les médias devraient avoir honte de diffuser un message qui ne reflète pas la réalité. Je comprends qu'il faille faire de l'audience, mais pas à n'importe quel prix.
Selon lui, ce discours peut avoir pour conséquence de dissuader certains électeurs de se rendre aux urnes. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et RFI qui vous fait vivre cette journée de vote aux États-Unis sur nos antennes et d'ores et déjà sur RFI.fr. Les États-Unis toujours où Joe Biden a félicité ces dernières heures Boeing et l'un des syndicats de l'avionneur après être parvenu à un accord pour mettre fin à la grève la plus coûteuse de ce début de siècle aux États-Unis. 7 semaines de grève au total des 33 000 machinistes de Boeing. Et puis Joe Biden qui n'aura pas obtenu de trêve à Gaza avant la présidentielle. Gaza toujours bombardée par l'armée israélienne. Le Hamas dénonce une frappe qui a touché l'hôpital Kamal Adwan, le seul encore en fonction dans le nord de la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien fait état de nombreux blessés parmi le personnel médical et les patients. L'armée israélienne a dit vérifier ces informations.
Les recherches se poursuivent en Espagne pour trouver d'éventuelles nouvelles victimes des inondations de mardi dernier.
Elles ont fait au moins 217 morts. Le bilan des personnes portées disparues est toujours inconnu. Les volontaires sont à l'œuvre depuis 6 jours pour aider les forces de police, les gendarmes et les secouristes. Mais un tel afflux de citoyens est-il réellement efficace sur le terrain ? Reportage à Paiporta, signé Paul Inglés.
Au volant de son 4x4, Manel Carceller en Barcelone met un peu d'ordre dans les voitures déposées aléatoirement par les flots.
Nous remorquons les voitures pour que les pelleteuses puissent passer. On met les voitures de côté pour que la grue puisse venir les récupérer. Mais l'essentiel, c'est de faire de la place pour qu'ils puissent enlever toute la boue.
Comme Manel, des centaines de bénévoles ont proposé leur aide à la ville de Paiporta. un appui bienvenu pour Vicente Cascales.
Ni les mots, ni l'argent, ni les gestes n'exprimeront assez notre reconnaissance de la solidarité qu'il y a eu ici.
Dans le centre-ville, des files de piétons, des véhicules de secours et des camions se frôlent en permanence sur un sol glissant. Sollicité par la mairie pour évacuer les encombrants, Francisco López conduit l'un de ses camions.
Ici, il y a trop de monde. S'ils nous avaient laissé travailler avec l'équipement lourd et ses camions, je vous assure qu'aujourd'hui, on serait allé jusqu'au bout de la rue. Et il fallait aller lentement. Moi, je ne les laisserai pas entrer. J'accepterai 1000 volontaires et ensuite je fermerai la ville.
Vendredi, le président de la région avait demandé aux gens de rentrer chez eux, sans succès. Pauline Glaise, dans la région de Valence, RFI.
On parle à présent d'un scandale qui agite depuis plusieurs jours la Guinée équatoriale.
La diffusion sur les réseaux sociaux de très nombreux sextapes d'un très haut fonctionnaire à l'œuvre, en quelque sorte, dans son bureau. Hier, le vice-président du pays a annoncé que le gouvernement allait procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères. Explication Alexandra Banjon.
Depuis quelques jours, des centaines de sextapes ont fuité sur les réseaux sociaux. On y reconnaît Balthazar Ebangengonga, le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, dans son bureau au ministère des Finances, avec différentes partenaires, dont des épouses et filles de ministres, de dignitaires et de généraux. Il existerait plus de 400 vidéos. Elles se seraient retrouvées sur les réseaux sociaux alors que le directeur de l'administration fiscale a été placé en détention préventive dans une affaire de détournement de fonds publics et ses téléphones et ordinateurs sur lesquels se trouvaient ces vidéos confisqués. Ce n'est pas la première fois que des sextapes impliquant des fonctionnaires se retrouvent sur les réseaux sociaux, mais l'affaire a pris une ampleur inédite du fait de la notoriété des protagonistes. Balthazar Ebangengonga n'est autre que le fils du président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, neveu du président de la Guinée équatoriale.
Alexandra Branjon, enfin vous l'avez peut-être suivi hier sur RFI, le prix Goncourt a sacré cette année le roman Houri de Kamel Daoud aux éditions Gallimard, une fiction qui revient sur la décennie noire des années 90 en Algérie, une guerre civile entre le gouvernement algérien de l'époque et des groupes islamistes. Le sujet de ce livre qui a suscité quelques tensions entre l'Algérie et la France, qui n'a pas empêché le jury de couronner dès le premier tour l'auteur de 54 ans, Catherine Fruchon-Toussaint.
Sans hésitation, les 10 jurés ont voté à la majorité pour Houri, le troisième roman de Kamel Daoud. Une fiction qui met en scène une jeune Algérienne égorgée en 1999 par des terroristes et qui survit miraculeusement. Une époque taboue en Algérie, voire un sujet de tension. À cet égard, le lauréat a tout de suite en arrivant remercié le courage du jury Goncourt.
Actuellement, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, mettre en valeur un écrivain, un écrit sur la guerre avec des enjeux pareils, c'est quelque chose d'admirable. C'est un prix qui est donné à un écrivain, je ne nie pas, mais c'est aussi, sachant ce que vivent des écrivains de l'autre côté du mur de nos démocraties, c'est un signal fort pour tous les gens qui sont tentés par cette aventure, celle d'écrire et de publier.
Un signal fort pour tous les écrivains dont la parole est menacée. Kamel Daoud en sait quelque chose. Son roman Houri est critiqué en Algérie, son éditeur français interdit, mais l'auteur croit en la circulation de la littérature, même si lui doit vivre en exil.
Oran me manque, l'Algérie me manque, mais je ne pense pas qu'on puisse interdire un livre à notre époque. Le livre circule d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'on interdit un livre réellement? Je ne le pense pas.
Récompensé pour sa puissance littéraire plus que pour des raisons politiques, Houri de Kamel Daoud sera, avec le Goncourt, traduit dans plus de 30 pays.
C'était Catherine Fruchon-Toussaint du service culture d'RFI.
Et c'était le journal de Jeanne Bartoli. 8h15, 8h14, à Paris, on continue de parler de cette journée de vote aux États-Unis. Tout se joue aujourd'hui dans le pays et notamment dans les États clés où le choix des électeurs peut balancer d'un côté comme de l'autre. Dans la prochaine demi-heure, la chercheuse Giovanna De Maio est notre invitée et la présidentielle américaine, c'est bien sûr aussi à la une de la presse internationale.
USA 2024.
America great again.
Frédéric Couteau à la une. Cette question, qui va gagner?
Oui, suspense aux États-Unis, suspense dans le monde entier, avec une seule et même question dans la tête de milliards d'individus. Qui sera le prochain président américain? Alors attention, prévient le Washington Post, la soirée électorale pourrait ne pas se dérouler comme prévu. Gardez la tête froide. Alors que les résultats tomberont goutte à goutte ce mardi soir, et très probablement dans les jours qui suivront, les Américains doivent se préparer à faire preuve de patience en observant des résultats préliminaires qui ne seront pas nécessairement indicatifs du résultat final. Le pays pourrait être confronté à un nouveau long décompte.
En fait, tout va se jouer dans les 7 États-clés, les fameux swing states.
Oui, c'est ce que pointe notamment le soir à Bruxelles, qui passe chacun de ces États-clés en revue. En Pennsylvanie, Harris conservera-t-elle la classe ouvrière reprise par Biden? Les arabo-musulmans du Michigan ont les yeux rivés sur le Proche-Orient. En Géorgie, l'érosion du vote afro-américain pourrait coûter cher à Harris. En Caroline du Nord, vote rural contre vote urbain. En Arizona, le droit à l'avortement au cœur d'une bataille serrée. Au Nevada, le vote des latinos de plus en plus divisé. Et puis dans le Wisconsin, l'outsider écologiste Jill Stein pourrait prendre de précieuses voix à Harris.
Et le fossé est tel entre démocrates et républicains qu'il paraît quasiment impossible, dit le Figaro à Paris, que les élections de ce mardi se passent en douceur.
Il y faudrait un verdict des urnes sans appel que seule une candidate, la démocrate Kamala Harris, semble éventuellement prête à reconnaître comme telle. Trump, lui, a fixé sa règle du jeu, relève le Figaro. Pile, je gagne. Face, elle perd. Les troupes du républicain attendent l'arme au pied lors du triomphe ou de la révolte. Cela explique l'état de stress, pointe le Figaro, dans lequel sont plongés les États-Unis. Bureaux de vote et centres de dépouillement ont dû être placés sous haute protection avec drones et tireurs d'élite. Et en effet, renchérit le temps à Genève, quoi qu'il arrive, Donald Trump sera tenté de se proclamer vainqueur. Les choses pourraient se gâter pendant le dépouillement, surtout s'il se prolonge dans les jours, voire davantage. Le Parti républicain a investi des millions de dollars pour assurer ce qu'il appelle l'intégrité des élections. Il a recruté des volontaires pour observer le déroulement du dépouillement. Une armée d'avocats est prête à lancer des contestations à la moindre faille avérée ou fantasmée.
Le Guardian à Londres va plus loin.
Et si nous assistions au final à un coup d'État larvé, s'exclame le quotidien britannique, puisque pour Trump, gagner dans les urnes n'a pas d'importance, tout comme interrompre un meeting pour écouter Pavarotti n'est pas un problème. Les chapelets racistes et de théorie du complot du candidat républicain n'ont pas pour but de convaincre des indécis, mais de motiver les partisans convaincus de Trump à participer à une nouvelle tentative de coup d'État. Et Libération, à Paris, de conclure, c'est bien la démocratie qui est en jeu et au-delà le sort du monde. Si Trump était élu, la première puissance mondiale tomberait entre les mains d'un homme prêt à encourager la guerre civile pour parvenir à ses fins, à nier le dérèglement climatique pour mieux satisfaire les géants pétroliers, à pactiser avec Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine et à piétiner les droits des femmes. La planète tout entière, conclut Libé, est donc suspendue à un scrutin qui n'a jamais été aussi serré dans l'histoire des États-Unis.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Le monde entier suspendu au choix que vont faire aujourd'hui les Américains. Le suspense est à son comble jusqu'à hier soir. Fin de campagne, Kamala Harris et Donald Trump étaient dans les États-clés pour convaincre les indécis, alors que les sondages donnaient la candidate démocrate et le candidat républicain au coude à coude, je vais y arriver. La moindre voix compte, a dit Kamala Harris lors de son dernier meeting à Philadelphie. Bonjour Giovanna De Maio.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RFI. Vous êtes chercheuse associée à l'université George Washington, enseignante à Sciences Po Paris et spécialiste des relations transatlantiques. Alors la campagne s'est terminée, on l'a dit, une campagne et deux styles bien différents sur la durée. Déjà, ça se compte en années pour Donald Trump, plutôt en semaines pour Kamala Harris. Un style aussi différent sur la forme. Giovanna De Maio, qu'est-ce qu'on peut dire de cette campagne ?
La campagne de Harris était beaucoup plus classique, avec la pratique du canvassing, c'est-à-dire aller porte à porte chercher les électeurs, les convaincre à voter, à avoir des conversations pas forcément faciles, et même avec les volontaires, mais aussi des staffs du Parti démocrate qui peuvent offrir de l'aide pour aider les gens évidemment à se rendre dans les bureaux de vote. Donc une campagne très ciblée, mais aussi voilà, voilà, très répandue, tandis que de l'autre côté, on a Donald Trump qui a moins cet aspect-là, même parce que aussi sa campagne était moins bien financée, mais avec un récit qui est complètement centré sur le fait que les élections seront contestées et du coup, comme le rappelait votre collègue tout à l'heure, sur l'idée qu'il y a une armée de volontaires prête à surveiller la conduite des opérations de vote, avec beaucoup de pression qui est mise sur les officiers locaux et justement aussi sur les électeurs qui se rendent à les bureaux de vote.
Et alors, cette campagne s'est surtout concentrée, on le disait, sur les États clés jusqu'à hier soir. On le disait, ces États pivots qui peuvent faire basculer le résultat de l'élection. Sur place, on a eu pendant cette campagne une avalanche de déplacements, de meetings, quitte à délaisser toute une partie du pays.
Oui, effectivement, parce que depuis une quinzaine d'années, les élections américaines deviennent, surtout la présidentielle, deviennent de plus en plus serrées. Et du coup, cette élection-là sera décidée par des dizaines de milliers d'Américains qui sont localisés dans des États pivots, comme vous le rappelez. Et la Pennsylvanie est un État clé parce qu'elle porte 19 voix au collège électoral.
Donc, c'est le plus gros réservoir de voix de ces États clés, oui.
Exactement. Et c'est pour ça que Kamala Harris, hier, s'est concentré beaucoup sur la Pennsylvanie, tandis que Trump aussi couvert le Michigan et la Caroline du Nord. Dans cet esprit, chaque vote compte et les électeurs peuvent être motivés par des sujets différents, que ce soit l'IVG, que ce soit l'économie ou encore la posture internationale des États-Unis, surtout vis-à-vis du Proche-Orient.
Alors ça, on va y revenir dans un instant. Chaque voix compte, c'est ce que Kamala Harris a dit hier justement lors de son dernier meeting, c'était en Pennsylvanie. Écoutez ce reportage d'Arim Lipold, notre envoyé spécial qui s'est rendu dans la région industrielle autour de Pittsburgh, autrefois bastion démocrate, désormais tourné vers les républicains.
Au bord de l'autoroute qui mène de Pittsburgh à West Mifflin, Nathalie et son mari tiennent un stand permanent de produits dérivés de Donald Trump. La tentative d'assassinat contre le candidat républicain en juillet dernier a dopé leurs affaires.
Le lendemain de l'attentat, lorsque nous avons ouvert notre stand, il y avait déjà une queue d'environ 50 mètres et elle n'a pas diminué de la journée. Nous avons dû fermer plus tôt parce que nous avions tout vendu.
À quelques jours de l'élection, Mike, un ancien militaire, est venu acheter deux pancartes portant le slogan « Les vétérans pour Trump ».
Si on n'arrive pas à remettre Donald Trump au pouvoir, on finira comme un de ces pays socialistes en Europe. Sous sa présidence, il y avait des emplois et tout était moins cher. 12 œufs coûtaient environ 1 dollar, maintenant c'est le triple.
Et justement, comment relancer l'économie locale? Les syndicats soutiennent le rachat du groupe sidérurgique US Steel par le géant japonais Nippon Steel, espérant ainsi protéger des emplois. Mais ce projet est devenu un sujet électoral brûlant, car les deux candidats à la présidence s'y opposent. Une position incompréhensible pour Chris Kelly, le maire démocrate de West Mifflin, qui se bat contre le déclin industriel de sa ville.
Ce projet créerait des emplois. Je reçois beaucoup d'appels de femmes qui travaillent dans l'acierie et qui craignent d'être licenciées. Elles me demandent comment je vais faire pour payer le crédit de la maison et les frais scolaires.
Chris Kelly ne sait pas comment le conflit autour de la fusion influencera le vote. Il y a 4 ans, sa ville de West Mifflin avait préféré Joe Biden à Donald Trump, mais le candidat républicain s'était imposé dans l'ensemble du comté voisin, notamment grâce au soutien d'électeurs comme Jason White. Cet ancien employé de l'industrie du charbon était un fervent démocrate, aujourd'hui reconverti dans l'agriculture. Il se sent abandonné par son parti.
Notre gouverneur vient d'annoncer un investissement de 600 millions de dollars juste pour Pittsburgh. Et que fait-on avec le reste de la région? En fait, ils ignorent les besoins des gens et de l'industrie ici.
Des électeurs comme Jason White resteront inaccessibles pour les démocrates. Si Kamala Harris veut l'emporter en Pennsylvanie, elle devra convaincre les indécis des centres urbains. Achim Lipold, à West Mifflin, RFI.
Et il faudra convaincre aussi les électeurs des États clés. On le disait, cette présidentielle américaine aujourd'hui très scrutée dans le monde. Giovanna de Mayo, on l'a dit, on l'a entendu dans la revue de presse à l'instant. Est-ce que l'avenir du monde se joue aujourd'hui, jour de présidentiel ?
Bien sûr, on a deux styles différents de politique étrangère. Avec Trump, on peut s'attendre à des effets disruptifs qui impacteront l'Europe et le monde en général. Avec Harris, on peut s'attendre plus de continuité avec la présidence de Biden, qui était quand même très atlantiste. Mais je tiens à rappeler qu'il y a des tendances de fond aux États-Unis qui ne changeront pas selon le résultat des élections. Notamment, les États-Unis montrent une réticence très forte vis-à-vis des engagements militaires à l'étranger. Ils ont une attitude économique de plus en plus protectionniste et tournée vers l'intérieur. Et surtout, ils ont tendance à privilégier le théâtre Indo-Pacifique et donc la Chine au théâtre européen. Donc, dans les deux cas, l'Europe perd de centralité, mais avec évidemment deux styles différents. D'une part, Trump considère l'Europe comme une rivale et Harris comme une alliée qui peut justement aider à rayonner la puissance américaine. Et comme on l'a plusieurs fois évoqué, le danger principal pour l'Europe en ce moment est constitué par de potentiels changements de l'engagement américain vis-à-vis de l'Ukraine et surtout d'une posture de Donald Trump qui ne tiendrait pas en compte les intérêts de sécurité européens, surtout à la lumière d'un potentiel accord avec Vladimir Poutine qui montrerait, comme il a déjà montré pendant sa campagne, qu'il n'y a pas de convergence stratégique entre le président des États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire qu'il considère, Trump ne considère pas la Russie comme en danger, comme évidemment on considère ici en Europe pour la sécurité, pas que de l'Ukraine, mais du continent en général.
Alors l'Europe qui a en quelque sorte brillé, pardon de cette expression, par son absence dans cette campagne électorale aux États-Unis, où est-elle l'Europe ? Alors vous l'avez évoqué, évidemment, elle transparaît dans plusieurs sujets, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette absence dans la campagne ?
Ça veut dire qu'il y a un changement de priorité de la part des États-Unis. La Chine est plus présente aussi à cause des sujets économiques, mais je tiens à rappeler que c'est quand même une campagne qui a beaucoup été centrée sur les sujets intérieurs. Donc c'est des États-Unis qui se regardent eux-mêmes, surtout sur ce qui est les sujets économiques. Et c'est là que Kamala Harris a essayé quand même de se détacher un peu par rapport à Biden en poussant un peu sur des éléments qui était un peu négatif, qui ont fait remarquer un peu un bilan pas hyper positif pour le président, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes couples d'acheter un appartement ou encore plafonner les prix, parce qu'on rappelle que l'inflation a été vraiment particulièrement significative pendant le mandat de Joe Biden. Donc on voit des États-Unis qui pensent à eux-mêmes, le sujet de l'UVG encore, qui effectivement risque d'être remis en question avec une présidence de Donald Trump et pas vraiment à l'international par rapport à d'autres campagnes.
Une place très importante accordée au sujet qui concerne l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça signifie que les Américains ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe dans le monde ?
Je pense que en général, la politique étrangère ne compte pas autant de la politique intérieure, mais effectivement, dans le contexte international actuel où avec le Proche-Orient, l'Ukraine, mais aussi la menace chinoise, effectivement, ça pèse dans l'esprit des Américains. Et on peut le voir, par exemple, avec le sujet du Proche-Orient qui peut coûter cher à Harris, surtout dans le Michigan, mais ça dépend à chaque fois de la conscience de chaque électeur. De manière générale, les sujets de politique intérieure ont la priorité, mais dans la projection future, je pense que les sujets de politique étrangère tels que le Proche-Orient ou encore l'engagement vis-à-vis de l'Ukraine qui est devenu un sujet de campagne, surtout pour le parti républicain qui en effet a créé qui a poussé beaucoup pour retirer cet argent qui est placé pour aider l'Ukraine au lieu d'aider effectivement les Américains, et que Harris, au contraire, a essayé de mettre sur un plan de démocratie, de défense des intérêts des États-Unis, et donc faire un peu un parallèle entre la démocratie à l'international et la démocratie à l'intérieur.
Merci beaucoup Giovanna De Maio d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'Université George Washington, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste des relations transatlantiques. Cet entretien sera bien sûr à retrouver sur notre notre site RFI.fr. Et on continue de parler de cette présidentielle américaine toute la matinée, toute la journée sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
de la ferme à l'assiette, comment l'Europe transporte ses animaux dans un marché de la viande mondialisé?
Demain,
harcèlement scolaire, comment libérer la parole et protéger les enfants, au collège comme sur les réseaux sociaux?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
À l'heure des élections américaines, il se pose en fervent soutien du candidat républicain. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est fan de Donald Trump. La réciproque est vraie. Orban et sa démocratie illibérale inspirent le camp républicain.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.